RFI, grand reportage, Charlotte Hydrac.
Bonjour, c'était le mois dernier, la conférence pour la reconstruction de l'Irak se tenait au Koweït. Et au cours de cette réunion, la communauté internationale, pays arabes en tête, annonçait 30 milliards de dollars en prêts et investissements pour l'Irak. C'est désormais une nouvelle page qui s'ouvre dans le pays. En décembre 2017, le premier ministre irakien Haïdar al-Abadi déclarait la fin de la guerre contre l'organisation État islamique. Après 3 ans d'intenses combats, les forces irakiennes, soutenues par les milices chiites, ont fini de reprendre les territoires conquis par l'EI. Les Irakiens ont payé le prix fort. Ils espèrent qu'avec la fin de Daesh, l'Irak finira enfin par se relever. Il faut maintenant reconstruire le pays et c'est un défi sur le plan économique. Mais il faut aussi reconstituer la société irakienne fracturée par la guerre et les violences confessionnelles de ces dernières décennies. Irak, année zéro, grand reportage, signé Nicolas Repère.
Dans un quartier du centre de la capitale irakienne, un chantier comme il en existe des dizaines tout autour. Des ouvriers s'affairent à tous les étages de ce grand immeuble encore vide. La structure est déjà bien avancée. Restent maintenant les finitions. Ali, un charpentier originaire de Bassora dans le sud du pays, nous emmène sur le toit au milieu des planches de bois et des poutres métalliques.
Avant que l'on commence notre travail, ce bâtiment était utilisé comme garage automobile. Mais le propriétaire a décidé de tout reconstruire afin d'en faire un centre commercial. Ici, c'était le quartier des voitures. Il y a encore plusieurs garages, mais ils sont de plus en plus remplacés par de nouveaux bâtiments. En face, à côté du château d'eau, vous avez encore une casse automobile. Mais là, derrière, c'est un immeuble qui vient tout juste d'être terminé.
Depuis la fin de la guerre, Ali saute de chantier en chantier. Il ne rentre que très peu chez lui, voire sa famille. Il sait que pour les prochains mois, et même les prochaines années, il aura du travail et il s'en réjouit.
Depuis la fin de Daesh, l'activité est repartie. Avec la guerre, il y a eu beaucoup de destruction. Regardez Mossoul, par exemple. C'était l'une des plus grandes villes du pays et elle a été rasée. Donc il faudra bien reconstruire. D'une certaine manière, c'est bien pour nous. On a beaucoup de travail. On va tout faire pour aider le pays à repartir.
Dans les rues de Bagdad, les embouteillages ont repris. Certains, amusés, s'en félicitent. C'est le signe que l'activité est de retour. Une partie des ralentissements était aussi due aux nombreux contrôles menés par les forces irakiennes à chaque entrée de quartier. Dans son magasin de rideaux, Mustapha Roubaï voit les clients revenir. Installé sur le boulevard principal du quartier bourgeois de Kerradé, il estime que le plus dur est maintenant passé.
Pendant la guerre, on avait plein de problèmes avec les routes fermées, les aéroports qui ne fonctionnaient pas. Nos rideaux viennent de Turquie, ils étaient bloqués plusieurs semaines avant d'arriver et cela nous coûtait très cher de les acheminer ici. On devait payer des intermédiaires. Mais maintenant, il y a toujours des taxes trop importantes pour le gouvernement, mais au moins les gens recommencent à acheter car la situation est plus stable.
Ce retour de la croissance est l'argument principal de certains observateurs de l'Irak. Ils expliquent que la stabilité du pays passe par une relance économique franche. Installé dans un café cossu, Nour Kaïs partage cette idée. Cette universitaire, originaire de Bagdad, est l'une des représentantes de la coalition du Premier ministre, Haïdar al-Abadi. Pour elle, cette victoire contre l'organisation État islamique, c'est d'abord la victoire du gouvernement.
Nous avons fini par vaincre Daesh, cette organisation terroriste. C'est une grande victoire pour tout le pays. Nous avons vu les gens se révolter contre ces criminels. La mentalité des Irakiens a lentement évolué pour comprendre qui ces djihadistes étaient vraiment. Les choses avancent lentement, mais nous sommes sur la bonne voie. Nous devons être optimistes pour l'avenir. L'Irak va se remettre debout et ce, grâce à ses habitants et son gouvernement. Les années difficiles sont désormais passées.
Mi-février, la conférence pour la reconstruction de l'Irak qui s'est tenue au Koweït a permis de lever 30 milliards de dollars en promesses de prêts et investissements. C'est peu car le gouvernement irakien estime à 100 milliards le coût total de la reconstruction. Mais pour Nour Kaïs, ces aides seront suffisantes pour relancer l'économie irakienne.
La situation économique en Irak est bien meilleure ces 3 derniers mois. Le gouvernement a permis l'arrivée d'investisseurs nationaux et étrangers. Nous avons aussi retrouvé une stabilité politique qui va permettre au pays de se reconstruire. Ce sont des éléments qui montrent que les choses vont dans le bon sens, c'est évident. Ce n'est pas encore parfait, mais tout le gouvernement fait son possible pour que la vie soit meilleure en Irak.
Bienvenue à la station.
On peut commencer par l'extérieur.
Vous avez ce bâtiment, on dirait une vieille usine, mais ce n'est pas le cas. C'est un tout nouvel endroit qui a été construit pour attirer les jeunes, pour qu'ils viennent à la station travailler sur leur projet.
Ali Al-Marzoumi est l'un des animateurs de la station, Al-Mahata en arabe. Cette première pépinière de talent d'Irak vient tout juste de sortir de terre. Les nouveaux entrepreneurs commencent déjà à s'y installer. Une petite révolution à l'échelle du pays.
La station est le premier espace de travail partagé d'Irak. C'est un lieu pour se rencontrer, pour travailler ensemble et créer son réseau. Nous sommes là dans l'espace business. Au fond, vous avez un café et la cafétéria. Et là, on arrive dans l'espace de travail. C'est comme si on était dans un endroit complètement différent. L'ambiance est beaucoup plus calme. Vous avez des gens qui sont installés à leur table. C'est vraiment une atmosphère de travail.
Parmi les jeunes start-upers, Mortada Al-Khatib. Cet entrepreneur de 24 ans est en train de finaliser son application avant son lancement dans les semaines qui viennent. Le principe est simple, utiliser son smartphone pour prendre rendez-vous chez le médecin. Le concept existe déjà dans plusieurs pays, mais pas en Irak. Mortada, qui a étudié aux États-Unis, est revenu dans son pays il y a un an pour lancer son application.
Quand je suis arrivé en Irak, beaucoup de gens faisaient le chemin inverse. C'était un moment très bizarre. On me demandait souvent, pourquoi est-ce que tu rentres ? Tout le monde part. On me disait, tu devrais te mettre à l'abri. Mais en fait, depuis que je suis rentré, tout va bien. Les gens ont des idées, des startups se lancent. Les choses bougent et vont dans le bon sens.
Mortada pointe néanmoins un gros défaut de l'Irak, la corruption. Selon le classement de l'ONG Transparency International, le pays est parmi les 10 plus corrompus au monde. Une place peu enviable qui décourage un certain nombre d'investisseurs, regrette le jeune entrepreneur. Cette lutte contre la corruption était pourtant l'un des objectifs prioritaires affichés par le gouvernement. Nous avons été déçus, déplore Mortada.
En tant qu'entrepreneur, je peux vous dire que je n'ai pas confiance dans mon gouvernement. Même eux détournent de l'argent. C'est la même chose parmi les partis politiques irakiens qui se réservent des secteurs entiers de l'économie. L'argent gagné n'est jamais réinvesti dans l'économie réelle, dans les start-up. Pourtant, l'Irak est un pays très riche. Il y a tout un tas de ressources, y compris la ressource la plus importante. Des gens doués qui savent faire énormément de choses.
Ali Al-Marzoumi est sur la même longueur d'onde. L'animateur de la station a pourtant travaillé un temps dans des ministères irakiens, mais fatigué par le manque d'efficacité, il s'est tourné vers le secteur privé. La station ne bénéficie du soutien d'aucun fonds public irakien, ce qui aurait pu être un inconvénient devient, à ses yeux, un énorme avantage.
On veut tourner la page de ces gens qui sont au pouvoir, de ceux qui dirigent les entreprises privées du pays, tous ces bureaucrates. Nous sommes la nouvelle génération et nous voulons changer tout ça. Dans beaucoup de secteurs de l'économie irakienne, il y a beaucoup à faire. J'en suis persuadé. Mais si les jeunes Irakiens quittent leur pays, qui va reconstruire l'Irak ? Qui va remettre de l'ordre dans le pays ?
À l'autre bout de la ville, le quartier aisé de Mansour, dans l'ouest de Bagdad. C'est le lieu privilégié de la jeunesse dorée de la capitale irakienne. Plusieurs malls, ces grands centres commerciaux à l'américaine, ont poussé comme des champignons ces derniers mois.
Actuellement, dans ce quartier, il y a tellement de restaurants et beaucoup d'universités.
Ce quartier est l'un des préférés d'Armad Chouab. Cet étudiant irakien, très à l'aise en anglais, termine son cursus d'architecture dans l'une des universités privées situées non loin. Entre deux cours, le jeune irakien retrouve quelques amis pour discuter. La bande regarde les derniers clips à la mode. On rigole beaucoup, mais on évoque aussi l'avenir du pays.
Je me souviens qu'en 2006, quand j'allais à l'école, il y avait des cadavres devant notre maison. C'était notre quotidien. Mais aujourd'hui, c'est fini. On ne voit plus ça. Peu importe où vous allez, vous voyez des projets qui sortent de terre. De nouveaux centres commerciaux sont en construction ici à Bagdad, mais également à Bassora ou à Mossoul. Tout cela va dans le bon sens pour l'avenir.
Ahmad reconnaît que Bagdad n'est pas tout à fait sorti d'affaire.
Il
nous faudra encore relever plusieurs défis. D'abord, je dirais que la sécurité n'est pas assurée à 100%. Tous les soirs, par exemple, je dois rentrer chez moi vers 20 ou 21h. Si jamais je devais rentrer vers 23h ou minuit, ma mère me tuerait. Elle serait persuadée que j'ai été kidnappé ou qu'il m'est arrivé quelque chose. C'est notre réalité pour le moment.
L'obsession des autorités irakiennes se résume en deux mots, cellules dormantes. Régulièrement, les forces locales arrêtent des membres supposés de l'organisation État islamique qui planifiait des attentats. La dernière attaque perpétrée de jour en plein Bagdad a marqué les esprits. Le 15 janvier dernier, deux kamikazes se faisaient exploser sur une place centrale de la capitale, tuant 31 civils. Shouja Nasser, gérant d'un magasin d'outillage, était à quelques mètres des explosions. Le commerçant n'arrive pas à oublier cette attaque.
La première explosion a eu lieu à quelques mètres de mon magasin. L'autre, 5 minutes plus tard, de l'autre côté de la rue. Toute ma marchandise a été endommagée. Ces seaux, ils sont inutilisables maintenant. Mais j'ai eu de la chance, j'aurais pu mourir ou être blessé. Depuis, j'ai très peur que cela se reproduise à n'importe quel moment. Comment voulez-vous que le pays se reconstruise dans ce climat? Ce sera très difficile.
Shouja était le jour de l'attaque avec son ami Abbas Kardim. Ce travailleur journalier de 38 ans attendait un potentiel employeur devant le magasin. Blessé à l'œil, il sait qu'il n'a quasiment plus aucune chance de retravailler un jour. Un gros problème pour ce père de famille nombreuse.
Depuis l'attentat, j'ai perdu l'usage de mon œil gauche. Je ne vois plus que d'un seul œil. Sur le coup, j'ai cru que je n'avais rien, mais les douleurs ont commencé 3 jours après l'explosion. Bien sûr que Daesh est l'auteur de cette attaque. Le gouvernement dit que les djihadistes ne sont plus là, mais on sait qu'ils existent encore. Dès que je vois une voiture s'arrêter, je ne suis pas rassuré. Moi, je suis déçu par la tournure que prennent les événements. Je pensais vraiment que la guerre était terminée. On voit bien que ce n'est pas le cas.
Si la situation reste inquiétante dans Bagdad, elle est largement plus dramatique en dehors de la capitale irakienne. Il suffit de prendre la route en direction de Lanbar, la province de l'ouest du pays. C'est ici que l'EI a pris le contrôle de ses premières villes au début de l'année 2014. Les dernières localités n'ont été reprises par les forces gouvernementales qu'il y a quelques mois, après d'intenses combats qui ont poussé les habitants à quitter leurs maisons pour ceux qui ne l'avaient pas déjà fait. Aujourd'hui, ces déplacés vivent sous des tentes dans des camps comme celui situé en plein désert à une vingtaine de kilomètres de Ramadi, la capitale provinciale. L'entrée est gardée par des soldats irakiens lourdement armés. Parmi les 18 000 déplacés, Raja Ahmed, 30 ans, vit avec une partie de sa famille, dont ses deux filles, dans une grande tente au milieu du camp. Un voile sombre sur les cheveux, cette Irakienne semble fatiguée. Cela fait bientôt 4 ans qu'elle a dû quitter sa maison, détruite dans des combats avec Daesh.
Vous vous rendez compte que je vis depuis tout ce temps dans une simple tente. Le sol est fait de terre et de boue. Dès qu'il pleut, comme c'était encore le cas il y a quelques jours, l'eau s'infiltre dans la tente parce qu'il y a des trous. À cause de ces inondations, on n'arrive pas à dormir. Toutes nos affaires finissent par être trempées. On ne reçoit quasiment aucune aide. Nous vivons dans des conditions vraiment très précaires.
Avec une dizaine d'autres femmes, Raja participe à un atelier de parole. C'est l'ONG française Première Urgence Internationale qui, en plus des soins primaires, met en œuvre cette aide psychologique. Les femmes racontent à tour de rôle leur histoire. Un psychologue de l'ONG les accompagne dans cette prise de parole. Mère de 4 filles, Zaina n'a que 23 ans. Originaire d'une ville contrôlée pendant près de 3 ans par les djihadistes, elle explique avoir rejoint le camp il y a 5 mois seulement. Soupçonnée d'avoir aidé l'EI, son mari a été emprisonné une fois la ville libérée. Elle dit être à bout.
Je suis arrivée dans le camp une fois que l'armée a repris la ville où j'habitais. Les militaires nous ont dit que ce serait mieux que là où nous étions. Ma maison était détruite, nous n'avions plus rien. Dans tous les cas, il n'y avait aucune alternative.
La jeune mère de famille assure être une victime de Daesh et non une des leurs. Elle clame aussi l'innocence de son mari, emprisonné à tort selon elle. Zaina a longtemps cherché un espace d'écoute dans le camp. Ces groupes de parole sont son seul réconfort.
J'ai décidé de participer à ces groupes de parole parce que je me sens terriblement seule. Personne ne peut me sortir de ma situation. Ici, c'est le seul soutien moral que je reçois. Ça m'aide aussi à faire face aux problèmes auxquels je suis confrontée. Je suis isolée, mon mari est en prison. J'ai 4 enfants, mais je ne peux pas leur offrir ce qu'une mère doit normalement offrir. Cette situation me détruit complètement. J'ai vraiment besoin d'une aide psychologique pour affronter mes problèmes.
Comme Zaina, beaucoup de ces déplacés souffrent de traumatismes psychologiques, témoigne Liam Kelly, le chef de mission de l'ONG Première Urgence Internationale en Irak.
Les résidents du camp viennent en grande majorité de localités très reculées dans la province d'Anbar, des endroits qui ont été aux mains de groupes islamistes pendant 4 ans, parfois même davantage dans certains cas. Beaucoup d'entre eux sont passés par des phases traumatisantes, que ce soit des événements violents dans leur quotidien, comme des exécutions publiques, certains membres de leur famille ont été blessés, les bombardements aériens, les combats au sol, et ils ont fini par fuir. C'est pour cela que nous sommes présents dans ce camp.
L'ONG possède un petit préfabriqué où se tiennent les groupes de parole. Liam Kelly rapporte aussi des frictions régulières entre déplacés.
Il y a plusieurs profils de gens qui vivent ici. Les plus anciens ont fui le groupe État islamique dès le début. Les plus récents ont des membres de leur famille qui ont rejoint ce groupe. Ceux-là sont gardés dans le camp. Ils sont surveillés ou une enquête est en cours sur leurs activités. Il y a donc de la suspicion qui se crée sur ceux qui auraient soutenu Daesh. Cela engendre des tensions.
L'ONG intervient aussi dans un autre camp situé au sud de Ramadi. Comme plus de 2 millions d'Irakiens, Raed Fayeh, originaire de Fallujah, est lui aussi considéré comme déplacé. Cet ancien officier de l'armée de Saddam Hussein, qui parle quelques mots d'anglais, a peu d'espoir d'un jour pouvoir rentrer chez lui.
Nous sommes ici parce que nos fils ont combattu avec lui. Nous n'y sommes pour rien. Mes fils ont été tués dans des combats il y a 2 ans déjà. Je n'ai plus rien du tout. Je n'ai aucun avenir, pas de travail. Je ne peux même pas rentrer chez moi. Ma maison a été brûlée pendant la guerre et ils l'ont marquée d'une grande croix.
Cette croix, tracée sur sa maison, est le signe que sa famille a collaboré avec lui. Depuis la libération des villes, tout le travail du renseignement irakien consiste à retrouver qui était favorable à l'EI et qui ne l'était pas. Un travail compliqué et hasardeux qui permettra à l'Irak de se reconstruire sur de bonnes bases. C'est l'avis du général Saad Harbia, commandant en chef des opérations dans une partie de l'Anbar.
Pourquoi nous avons réussi à vaincre Daesh ? Parce que nous travaillons main dans la main avec la population irakienne. Ce sont les Irakiens qui nous fournissent les informations parce qu'ils nous font confiance. C'est sur cette confiance que nous avons bâti notre victoire. Et c'est pour cela que je suis persuadé que ces groupes extrémistes ne referont plus jamais surface dans notre pays. La population irakienne est de notre côté.
Dans ce climat de suspicion générale, difficile de croire le tableau idyllique brossé par le commandant de l'armée. Il y a malgré tout des raisons d'espérer qu'enfin le rassemblement des communautés irakiennes soit possible.
Assalamu alaikum.
Avec ses programmes télé, le plus grand groupe de médias publics irakiens va dans ce sens. Le directeur de ces chaînes, Moujaïb Abou Al-Hel, en a fait l'une de ses principales missions.
Notre objectif n'est pas de pardonner les crimes commis par Daesh. Avec nos contenus, nous tentons au moins de reconstituer la société irakienne, toute cette société qui a volé en éclats au moment de l'apparition de cette organisation djihadiste. Aujourd'hui, la guerre sur le terrain contre Daesh est terminée, mais son idéologie n'a pas complètement disparu d'Irak. Nous devons poursuivre et remporter la bataille des idées. Ce n'est que comme cela que nous parviendrons à obtenir le droit de vivre de nouveau en paix.
De Mossoul à Tikrit, en passant par Fallujah et Ramadi, l'Irak va devoir reconstruire ses villes. Mais tout cela ne servira à rien si les tensions confessionnelles entre chiites et sunnites ne s'apaisent pas. Une partie de la réponse sera donnée en mai prochain, lors des premières élections législatives organisées en Irak depuis la fin de l'organisation État islamique. Un baromètre de la stabilité. Une stabilité aujourd'hui réclamée ouvertement par la plupart des Irakiens. Irak, année zéro, un grand reportage de Nicolas Roper, réalisation Pierre Chaffanjon.